C'est toujours un plaisir de venir ici. Ça fait quand même plusieurs années là, que le Seigneur permet que je vienne vous voir. Et puis, je lui suis reconnaissant de ça. Cette année, j'avais en tout cas une impression depuis quelque temps qu'après que j'ai eu terminé mon encyclopédie, Je croyais que, bon, mon ministère s'arrêtait là, puis je m'assoyais, puis j'attendais le Seigneur. Bon. Et puis, je suis allé à Granby au mois de décembre, je suis allé donner des ateliers sur la possession, tout ce qui a rapport avec le monde surnaturel. Et Richard Roule me dit, il dit, quel âge as-tu? J'ai dit, je vais avoir 62 ans. Oh, il dit, il te reste encore 10 bonnes années, tu sais, dans le ministère. Fait que là, j'ai dit, ouais. OK, Seigneur, si c'est comme ça, ben ouvre les écluses. Et puis, c'est ce qu'il a fait. Et puis, je suis avec vous aujourd'hui. Samedi prochain, je prends l'avion pour Fermont. Ensuite, je reviens. Je vais être à Shawinigan fin mai pour une série de conférences sur le retour du Seigneur. Et j'ai déjà beaucoup d'endroits pour l'automne. Alors, en tout cas, j'ai dit au Seigneur, ben, si tu veux que je continue, il va falloir que tu me donnes la force, parce que je n'irai pas là avec mes forces à moi, parce que ça ne marchera pas. J'étais à Rock Forest il y a à peu près un mois, puis il y a deux cultes le dimanche matin, parce que l'assemblée est trop grosse pour qu'il y en ait seulement un. Et j'ai parlé deux fois. Et la deuxième fois, j'étais devant un lutrin, mais pas ceux-là, les autres, vous savez, ceux juste en métal, là, pour tenir des feuilles. Et c'était vraiment pas suffisant. Et à un moment donné, j'étais fatigué, puis mes petites papates, ils faisaient ça comme ça. Fait que j'ai compris que Dieu voulait que, bon, que je prenne ça en considération aussi, vous savez, je suis pas d'accord avec toute la pensée. Bon, ben, je te remercie, Benoît. Et vous savez, on a tous entendu l'époque où il y avait la fameuse phrase qu'on servait à toutes les sauces, « Écoute ton corps ». Alors, j'écoute pas mon corps à toutes les minutes, mais je pense que c'est bon de le faire de temps à autre, parce que des fois, il y a des messages à nous passer. Puis si on les écoute doucement, ben ils les passent un petit peu plus, de façon un peu plus violente. Bon, alors, j'avais travaillé fort. Ça me fait de la peine que la présentation fonctionne pas, parce que j'ai travaillé fort là-dessus. Quand j'ai parlé avec Benoît, il m'a demandé, il dit, as-tu entendu parler du secret? J'ai dit non. Ben, évidemment, comme vous allez le voir, c'est quand même un sujet qui est connecté avec beaucoup de choses. Là, Rhonda Byrne, qui a écrit le livre, elle n'a rien inventé. Là. C'est vieux comme le monde, ça. Sauf que c'est présenté un peu différemment. Mais pour introduire le secret, il y a un verset de la parole de Dieu qui, en fait deux dans l'épître de Paul à Timothée, dans la seconde épître. Prenez le temps d'écouter comme il faut, puis de mesurer de quoi on parle dans ce passage, dans ces deux passages-là. 2 Timothée, chapitre 3, 1 à 5. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. J'ai l'impression de regarder le journal télévisé à 6 heures. C'est la description de notre monde de façon plus que fidèle. Le deuxième passage, il est à peu près du même type. 2 Timothée 4, le chapitre suivant, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et ce matin, je vais vous parler d'une de ces fables-là qui s'appelle « Le secret ». Qui a lu Le Secret? Qui en a entendu parler, puis qui sait à peu près, grosso modo, ce dont il est question dans le livre? Alors, bon, je répète, l'auteur Rhonda Byrne, elle est née en Australie en 1951. C'était... C'est un auteur et un producteur de télévision. Elle a produit plusieurs séries à la télévision en Australie. Le livre s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Se tourneront vers les fables. 4 millions d'exemplaires, le DVD à 2 millions. En 2007, elle a été classée par Time Magazine parmi les 100 personnes ayant le plus façonné le monde. Je suis persuadé qu'elle a façonné le monde, mais je suis certain que c'est pas pour le meilleur. Elle a détourné les gens de la vérité, comme nous dit le passage. On a lu tantôt que les gens ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Parce qu'au fond, les gens dans notre société ne veulent pas entendre la vérité. Ils veulent que ce qu'ils entendent, corresponde à leur propre désir. Ma vérité. Que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça, le monde actuel. Ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est ce que moi, je veux. Autrement dit, le secret, comme on va le voir en le développant, c'est vraiment ça. C'est d'essayer d'organiser tout ce qui est dans l'univers et le rendre semblable à ce que moi je veux, à ma façon de comprendre et de voir les choses. D'où ça vient, le secret? Alors, il y a eu, au 19e siècle, il y a eu un mouvement qui s'appelait « The New Thought Movement », alors qui veut dire le mouvement de la pensée nouvelle, et on disait aussi « le » D'ailleurs, j'ai pas très bien compris. Le penser nouveau. On appelait ça comme ça. Il y avait trois influences, trois églises, parce que ayant l'apparence de la piété. Alors toujours, si vous voulez amener les gens à à une fausse doctrine, vous allez toujours vous organiser pour que ce soit semblable, que ça ressemble à ce que les gens croient. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans les années 1900. Il y avait trois mouvements à ce moment-là. Il y en avait un qui s'appelait l'Église de l'Unité ou Unity, qui était qui a été pondu, si on peut dire, par Monsieur Charles Fillmore et son épouse. Alors, c'était dans les années 1800. Le deuxième mouvement, c'était Religious Science, la science religieuse, connue aussi sous le nom de Science of Mind, la science du mental. Alors, c'était un mouvement qui était à la fois spirituel, philosophique, métaphysique, etc. Alors, tu mélangeais tout. Et c'est un mouvement qui a eu aussi un impact assez important sur le Nouvel Âge. Et le troisième, qui s'appelait Church of Divine Science, l'Église de la science divine ou science divine. Alors, ces trois mouvements-là sont à l'origine présentent, en fait, la source de ce qui va devenir dans la pensée de Rhonda Byrne, de ce qui va devenir le secret en tant que tel. Il y a beaucoup de définitions qui ont été données là-dessus. On parle, parce que la base du secret, c'est la loi dite de l'attraction. Alors, qu'on définit, certains définissent comme ça, une pensée positive dirigée vers un but déterminé va nécessairement aboutir à la concrétisation de cette réalité-là. Autrement dit, vous pensez fort à quelque chose, puis ça va arriver. Quoi, je dois pas avoir compris le principe parce que m'est arrivé dans ma vie de penser à quelque chose, puis c'est pas tout à fait le quelque chose qui est arrivé, c'est quelque chose d'autre. Et je trouve ça extrêmement dangereux de véhiculer une pensée semblable, de laisser entendre que j'ai une telle influence sur l'univers. Autrement dit, là, moi, mon petit moi va aligner l'univers à ce que moi je désire. Il est important de mentionner que la science chrétienne, Christian Science, et l'Église de Scientologie se dissocient de ce mouvement-là. On n'a pas vraiment d'intérêt à s'associer, quoique il y a beaucoup de points qui sont similaires. Dans le secret aussi, on prétend qu'il y a des scientifiques qui laissent entendre que le secret peut s'harmoniser avec la physique quantique. Mais la science, pas celle des hypothèses, celle des faits, voit aucun lien entre les deux. Au contraire, il y a une citation aussi, « La physique quantique est connue pour être contre-intuitive, choquer le sens commun et nécessiter un formalisme mathématique ardu. » Feynman, l'un des plus grands théoriciens spécialistes de la physique quantique de la seconde moitié du 20e siècle, a écrit « Personne ne comprend vraiment la physique quantique ». Alors, lui, c'est un spécialiste de la physique dite quantique, puis il dit qu'il n'y a personne qui comprend vraiment comment ça fonctionne. Alors, je ne comprends pas comment Mme Byrne peut prétendre, et d'autres aussi, que ça s'harmonise. La raison principale de ces difficultés, écoutez, écoutez bien, c'est important parce que on disait tout à l'heure que la loi de l'attraction, c'est d'essayer d'organiser le monde comme moi je voudrais qu'il soit. Alors, elle dit, la raison principale de ces difficultés est que le monde de l'infiniment petit, le microscopique, si vous voulez, se comporte très différemment de l'environnement macroscopique auquel nous sommes habitués. Donc, il n'y a pas de lien entre les deux. Cette espèce d'équation-là, macrocosme, microcosme, c'est pas Rhonda Byrne puis les mouvements qu'on a cités auparavant qui ont inventé ça. C'est la base de toutes les philosophies orientales. Alors, dans les philosophies orientales, vous retrouvez ce qu'on appelle le principe du tai chi, pas le tai chi, là. Le principe du Taiji, c'est-à-dire le symbole yin et yang. Alors, le symbole, c'est le petit point blanc dans la virgule noire. En tout cas, c'est comme ça que j'essaie de le décrire. Et l'autre, c'est le petit point noir dans la virgule blanche. Alors, ça, c'est fondamentalement contraire à la pensée chrétienne. Parce que ça implique ça affirme qu'il y a du positif dans le négatif puis du négatif dans le positif. Mais ça marche pas comme ça. Et ça va plus loin. Ça affirme que le créateur fait partie de la création. Ça, c'est la pensée taoïste, le Tao. Le créateur est une partie intégrante de la création. Mais s'il est une partie intégrante, il n'est plus créateur, il est créature. Alors, il faut comprendre ça si on veut s'exclure de toutes ces fausses doctrines-là, de tous ces mensonges-là, qui sont gigantesques au fond, et qui arrivent toujours avec la même prémisse qu'on fait toute partie d'un tout, et chaque partie de ce tout-là est pas plus importante ou pas moins importante que le tout. Mais ça n'a aucun sens pour quelqu'un qui croit en Dieu. Le principe de la loi de l'attraction, comme on disait tout à l'heure, ça fonctionne exactement à l'inverse de la prière. Alors, la prière met en cause ma soumission à la volonté de Dieu et vise à harmoniser la mienne, ma volonté, à la sienne. Hein? C'est ça la prière. Que ton nom soit saint, que ta volonté soit faite. Pas que ma volonté soit faite. Alors que la loi d'attraction, c'est d'harmoniser tout le reste avec ma volonté. Moi, je veux ça. Alors, organisez-vous les puissances de l'univers pour me donner ce que je veux. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous pensez que ça peut marcher, ça? Mauvaise réponse. Malheureusement, ça peut marcher. Mais c'est qui va faire que ça va marcher? Qui a intérêt de me laisser croire que c'est à cause de ma volonté que les choses changent? C'est celui qui se cache derrière et dit, « Hey, on va avoir du fun avec eux autres. » Ils pensent qu'ils peuvent changer les choses dans l'univers. Ils pensent qu'avec leur petite pensée, ils sont capables de réorganiser les choses. Une autre définition de la loi de l'attraction, c'est une loi universelle qui stipule que ce sur quoi vous vous concentrez avec passion se manifeste. C'est toujours fondé sur le principe de la pensée positive. J'ai un petit peu de difficulté parce que souvent les gens mélangent être positif dans la vie, qui est tout à fait correct, avec la pensée positive. La pensée positive, c'est pas ça. Ça va bien plus loin que ça. Ça va plus loin que de voir les choses du bon côté, hein, le fameux verre à moitié plein puis à moitié vide, l'optimiste le voit à moitié plein, le pessimiste le voit à moitié vide, mais là, ça va plus loin que ça. La pensée positive, c'est de croire que je peux, par ma pensée, changer l'ordre des choses. Écoutez, je vais avoir 62 ans, depuis à peu près un an et demi, j'ai vu 9 personnes, dont 8, qui sont décédées du cancer en l'espace d'un an et demi. Des gens qui étaient proches de moi. Et je peux-tu vous dire qu'à un moment donné, tu commences à en avoir ras-le-pompon, là? Juste le mot salon funéraire, là, c'est comme un coup de massue sur la tête. Et je peux dire que parmi ces gens-là, la grande majorité voulait vivre. Et il y avait même des gens qui croyaient qu'ils pouvaient changer les choses, mais ils n'ont rien changé, ils sont morts, pareil. Parce que la mort, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Je veux pas mourir, je suis immortel. Oh! Ah, vous connaissez la vieille blague dans le temps de la guillotine. Alors, il y a un condamné à mort qui monte sur le lieu où doit se produire son exécution, puis il est à côté du bourreau qui va lui couper la tête, puis il dit au bourreau, « Je suis pas coupable, je suis pas coupable. » Il dit, « Mets ta tête là, on va voir si t'es pas coupable. » Ben, c'est un peu aussi ridicule que ça, parce qu'au fond, j'ai beau faire ce que je veux, je ne peux pas changer. Moi, je crois que le jour de mon départ, il est écrit, parce que la Bible me dit que les jours que Dieu a pour moi sont comptés, ils sont inscrits dans un livre. Ben, ça veut pas dire que je vais tout faire pour ne pas m'occuper de ma santé de telle sorte que je veux essayer de contrer cette affaire-là. De toute façon, je n'ai rien à faire. Le jour de ma mort, c'est décidé, fait que je vais organiser ça n'importe comment, puis ça ne changera rien. Je pense pas que ce soit ce que Dieu veuille non plus. Je pense que Dieu veut que j'apprenne à bien compter le temps qu'il m'a donné. Alors, il y a tout plein de monde qui sont associés avec Rhonda Byrne dans le film comme dans le livre, puis des gens qui sont des grands véhicule de la pensée positive. Il y en a un, entre autres, qui a écrit les Chicken Soup, là, Jack Canfield. Bon, est-ce que c'est mal de lire Chicken Soup? Ben, c'est pas une question d'être mal, mais c'est une question que si je me nourris de tout ça, je risque d'être influencé par la pensée qui est derrière tout ça, qui est toujours la même, qui est toujours celle du Nouvel Âge. Alors, il y en a une, entre autres, qui s'appelle Marcy Chemoff, qui a écrit des Chicken Soup, elle, pour les femmes, pour l'âme des femmes. Vous pouvez avoir davantage de bonheur dans votre vie maintenant, aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre de tomber en amour, d'avoir une nouvelle maison, de faire $1 million. Le bonheur est à la portée de la main, prêt à être expérimenté par vous maintenant. Alors, c'est ce qu'on essaie de véhiculer tu peux changer les choses, tu peux faire que la vie va être différente de ce qu'elle est. Parce que finalement, la majorité des gens vivent dans un train-train, dans une espèce de d'ordinaire, entre guillemets, puis ils voudraient vivre autre chose. Autre chose que ceux qui vivent cette autre chose-là n'aiment pas non plus. Parce que finalement, c'est toujours plus beau de l'autre côté de la rue, mais quand on est rendu de l'autre côté de la rue, on s'aperçoit que c'est pas mieux. Hein? Il y en a un autre qui dit, lui, c'est vous qui attirez tout ce qui vous arrive dans votre vie. Hey, c'est fort, ça. Et vous le faites avec les images que vous entretenez dans votre esprit, avec ce que vous pensez. Ce que vous nourrissez dans votre esprit, vous l'attirez dans votre vie. C'est pas faux à 100%. C'est sûr que si je suis toujours en train d'être négatif, puis j'attire pas, mais je veux dire, je vais les vivre, ces choses-là, c'est évident. Mais le fait d'avoir des pensées positives ne va pas changer la réalité pour autant. Alors, ces gens-là, ce qu'ils disent en fin de course, puis celle qui a été le plus grand véhicule de la pensée du Nouvel Âge, c'est certainement Shirley MacLaine. Bon, Shirley MacLaine avait poussé jusqu'à dire, si vous êtes en chaise roulante, c'est vous qui avez désiré ça. J'en ai vu tantôt des gens en chaise roulante, puis si vous leur demandez, je suis pas mal convaincu qu'ils vont vous dire que c'est pas eux autres qui ont choisi ça. Si vous êtes parent ou quadriplégique depuis la naissance, c'est vous qui avez décidé ça. C'est fort pas mal, hein? Alors, on voit la folie de vouloir être un apprenti sorcier, de vouloir avoir le pouvoir sur les choses, ça va jusque-là. Il y en a un autre qui dit, la création ne cesse jamais. Chaque fois qu'un individu a une pensée ou s'adonne à une longue période de réflexion, il se trouve dans un processus de création et ses pensées deviendront une réalité. Si vous nourrissez votre esprit de ça, vous allez engendrer des situations où ouvrir la porte pour que quelqu'un s'organise pour que ces choses-là arrivent. Vous souvenez-vous l'année passée, je vous ai parlé d'astrologie. Je vous ai dit, quand j'étais astrologue, j'avais une femme qui était venue, de qui j'avais fait la carte du ciel, et puis j'avais dit, telle date... ton fils va voler l'auto de ton mari, il va avoir un accident, puis il va emboutir complètement le véhicule. Elle m'avait dit, ça se peut pas. Mon fils, il a 11 ans. Ben, je dis, regarde, je le vois, puis ça va arriver. Mais moi, j'étais convaincu. Mais c'est quoi qui est arrivé dans le processus? C'est qu'elle, là, était tellement convaincue que c'était pour arriver que le monsieur d'en bas, hein, notre ennemi, l'adversaire, il a dit, « Gars, il dit, j'ai quelqu'un qui crée à ça. On va s'organiser pour que la patente arrive, pour qu'après, elle croie encore plus à ça. » Alors, je pense que ce fameux secret-là fonctionne un peu de cette façon-là. J'ouvre les vannes, j'ouvre les portes pour que les puissances des ténèbres agissent avec ce que je désire, puis s'organisent pour permettre, pour faire que ces choses-là vont arriver, de telle sorte que moi, ben je vais dire, « Hey, c'est fort, ça marche. » Comme cette madame-là, moi, je me suis converti au mois de mai, et cet été-là, elle courait après moi, elle me cherchait, j'étais déménagé, puis elle avait rencontré ma sœur, puis elle était toute fière de lui dire que ce que j'avais dit était arrivé. Faut le faire. On se sert même dans le livre comme dans le film d'une parole du Seigneur, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Hey! Le principe, Jésus, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est bien différent de ce qu'eux autres laissent entendre. Tout ce que vous demanderez avec foi, mais foi en qui? Oui. Alors qu'eux autres, c'est la foi dans la foi. C'est la foi en elle-même qu'eux autres préconisent. Alors, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, on l'a dit tantôt, le modèle de prière que Jésus nous a laissé, à prime abord, ce qui importe, c'est sa volonté et non la mienne. Donc, si je demande quelque chose à Dieu, puis je suis en communion avec Dieu, ce que je vais lui demander va être selon sa volonté à lui. Mais c'est logique que si ce que je lui demande qui est selon sa volonté, il me l'accorde. Les plus vieux qui sont de mon âge, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous vous souvenez de Janis Joplin, elle avait une toune qui s'appelait « Oh Lord ». Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Seigneur, je vais avoir une Mercedes. Ben, c'était un peu pour montrer que souvent, il y avait des gens qui, même des chrétiens, je trouve ça fort dommage, parce qu'il y a des chrétiens, il y a un mouvement qui s'appelle justement Faith in Faith Movement, qui dit que Dieu veut que vous soyez riches. Dieu veut pas que vous vous promeniez en Chevrolet, il veut que vous vous promeniez en Cadillac. Ben, en tout cas, ceux qui vont voir le véhicule que j'ai, c'est un vieux Jeep 1997, et je pense que j'ai la foi. Mais je suis pas convaincu que Dieu veut que je sois un millionnaire. Je suis plutôt convaincu du contraire. Et vous savez quoi? Je suis content que ce soit comme ça. Parce que je ne suis pas certain, si j'étais millionnaire, que je serais aussi dépendant de Dieu que je le suis. Malheureusement, je suis obligé de l'avouer. Et je pense que chacun d'entre nous, si on est honnête, on est obligé de dire que, à mesure que les jours passent dans notre relation avec Dieu, plus on est dépendant de lui et plus c'est merveilleux ce qu'il va faire dans nos vies. Parce que j'ai jamais la prétention que ça vient de moi. Je sais que ça vient de lui. Et ça, là, c'est tellement merveilleux. Pendant que j'ai écrit mon encyclopédie, chaque jour, je lui disais, Seigneur, je n'ai pas la capacité intellectuelle, je n'ai pas l'intelligence pour écrire ça, je suis pas capable, je peux rien sans toi. Et c'était pas la pensée positive, ça, là. Mais quand le livre a été terminé, puis je l'ai tenu dans mes mains, j'ai pas dit, bravo Yves Petel pour ce que tu as fait, j'ai dit, merci Seigneur. Et c'est ça qu'il veut, Dieu. Dieu veut être glorifié dans nos vies. Quand j'ai fait le lancement de mon livre, j'ai dit, Dieu nous dit dans sa parole qu'il choisit les choses folles de ce monde pour confondre les fortes, les sages, les choses faibles pour confondre les fortes. Quelle pensée extraordinaire! Alors, quand j'écoute les citations dans le livre ou dans le film, j'ai écrit un texte ici, « Il me semble entendre un certain serpent dans un certain jardin dire à une certaine femme. » Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Alors, ce que Dieu dit, c'est pas vrai. C'est ça que Satan dit. C'est ça qu'il dit dans le secret. Il dit, « C'est pas vrai. » Que vous êtes dépendant de Dieu, vous êtes des grands garçons puis des grandes filles, puis vous pouvez faire que les choses vont se produire comme vous le désirez. mensonge. Mais comme il est agréable d'entendre ce mensonge-là quand on ne veut pas de Dieu. Vous savez sans doute que Laurence vous a dit la semaine passée qu'une des plus grandes raisons pour laquelle la théorie de l'évolution existe, c'est parce qu'elle fait que vous n'avez de compte à rendre à personne. Mais c'est ça la raison. Cherchons pas autre chose. L'homme ne veut pas dépendre de Dieu. Alors il s'est créé une religion où il n'y aura de compte à rendre à personne. Et ça a marché avec Ève. Alors, est-ce que vous pensez que l'ennemi va changer de stratagème? Ça fait des milliers d'années que ça fonctionne. Il continue avec ça, ça va bien. On change de nom d'un siècle à l'autre, mais les méthodes sont toujours fondées sur le même principe. Ce que Dieu vous a dit est faux. Moi, je vais vous dire la vérité. C'est quoi la gnose ou le gnosticisme? C'est Dieu a caché des choses à l'homme et moi, je vais vous les révéler. Alors, c'est une petite gang des initiés. Vous êtes plus brillants que les autres. Vous avez droit à des connaissances supérieures et vous embarquez dans notre mouvement, que ça soit les Écancars, les Rose-Croix, nommez-les. C'est tout pareil. C'est toujours ce que Dieu n'a pas voulu vous dire. Moi, je vais vous le dire, puis vous allez devenir des créatures supérieures. Mais dans le jardin, vous savez, c'est pas le même, ça fonctionnait. Il y avait un arbre au milieu du jardin, comment il s'appelait? Oh, que vous avez pas eu votre note, vous là! C'est l'arbre de vie qui est dit spécifiquement qu'il est au milieu du jardin. Et on dit qu'il y a aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tant et aussi longtemps que l'homme et la femme se nourrissent de l'arbre de vie, ils sont immortels. Le jour où tu en mangeras, qu'est-ce qu'il est dit? Après, tu mourras certainement. Mais en hébreu, c'est pas ça. C'est tu mourras, virgule, tu mourras. C'est fort, ça. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Tu as le choix entre consommer la connaissance ou de te nourrir de la vie que je te donne. Qu'est-ce que tu choisis? De quoi on parle en 2009, en 2007, en 2008? Hein? On parle de connaissance, gnosis. C'est ça la gnose, c'est la connaissance. Vous avez des gens qui suivent des cours de n'importe quoi. C'est quoi que tu étudies? Ah, je ne sais pas, j'étudie. Je veux pas être mal compris, je veux pas ridiculiser quoi que ce soit, mais je me souviens, une fois j'avais vu à la télé, une madame dans les 90 ans, pas 70 ans, 90 ans, qui avait terminé son doctorat. So what? On fait quoi avec ça? Pourquoi? Non, mais je veux pas ridiculiser la personne, mais la situation. Bouddha Jean a écrit, lui, l'être humain est le seul responsable de son destin. Il tombe vraiment dans le panneau, la prétention que c'est moi qui décide. Et le bouddhisme, c'est plus une philosophie qu'une religion. D'ailleurs, vous savez, il y a beaucoup d'Occidentaux, des artistes, qui se convertissent au bouddhisme. Parce que, pas fatigant. Tu relèves encore de personne. Bouddha, c'est pas le sauveur. Bouddha, c'est un philosophe, il a dit des choses. Alors, t'es d'accord ou t'es pas d'accord avec Bouddha, puis c'est pas plus grave que ça. Pas fatigant, ça. Mais de relever d'un Dieu trois fois saint à qui je dois rendre des comptes, c'est un petit peu plus difficile. C'est pas naturel. Parce que mon petit moi, il veut flatter son petit moi à lui. Il veut pas être soumis à quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai que parfois c'est moi qui tiens la solution dans mes mains, mais je ne peux pas prétendre que c'est tout le temps le cas. Quand on parlait tantôt, il y a des chrétiens qui disent, Dieu veut que vous soyez riches, là. Je ne sais pas ce qu'ils font avec les chrétiens en Afrique et en Haïti. Ils sont moins spirituels, eux autres. Mais c'est grave quand on dit des choses comme ça. Quand on laisse entendre que Dieu veut que je sois de même, alors que Dieu ne nous a jamais promis ça. Et vous savez, vous n'avez pas besoin d'embarquer dans le trip du secret, là, je veux dire, d'un couvert à l'autre, mais si votre pensée vous amène à des considérations comme celles qui sont dans le secret, vous risquez d'avoir des grandes déceptions dans votre vie spirituelle. Moi, ça commence à bien aller dans ma vie spirituelle le jour où je soumets ma volonté à celle de Dieu. Je lâche la corde. Vous savez, je fais souvent la blague, le jour où on se convertit à Jésus-Christ, on arrive avec nos stocks puis on met ça au pied de la croix. Organise-toi avec ça. Puis le lendemain, on commence à charrier de l'autre bord. Dommage. C'est dommage. La foi en Dieu, c'est de croire Dieu. C'est pas juste de croire en Dieu, c'est de croire Dieu. Je te crois, Seigneur. Je te donne ma vie parce que je sais que tu peux faire des choses avec cette vie-là. Puis je suis tanné d'essayer d'avoir le contrôle, exactement le contraire du secret. C'est un peu comme si vous allez voir le metteur en scène d'une pièce de théâtre. Il y avait tout plein d'acteurs dans la salle, puis tout le monde est énervé, est excité, puis la personne qui va avoir la solution, c'est celle qui va aller voir le metteur en scène, va dire, regarde, je suis tanné, là, j'ai essayé 56 rôles, puis ça marche pas. C'est you que tu me veux, toi! C'est quoi que toi tu veux que je fasse? C'est ça que Dieu veut. Et non pas exactement comme on voit dans le secret. Moi, je veux ça et c'est ça que je vais faire. N'en déplaise à tout le reste de la planète. C'est diamétralement opposé. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui vivent comme ça. En fait, les étapes du secret, c'est de demander, de croire, puis de recevoir. D'abord, vous êtes convaincu de ce que vous voulez avoir. Vous croyez dur comme fer que ça va arriver. Puis, vous vous préparez mentalement pour que ça arrive. Fait que, imaginez que vous avez ouvert la porte, pas juste un petit peu. Ça fait qu'il y a quelqu'un qui se précipite à vitesse grand V dedans. Ce qui se cache derrière ce fameux secret, ce n'est pas la loi de l'attraction, mais c'est le grand détracteur de l'âme humaine, le prince de ce monde, celui-là même qui a offert les royaumes de la terre au Seigneur Jésus, en échange de quoi? Si tu m'adores. Si tu m'adores, je vais te donner tout ça. Excusez-moi le mot, mais c'était baveux, pas à peu près. Qu'est-ce qui va arriver dans l'Apocalypse? Il y a un moment donné où c'est écrit « Le royaume du monde est remis à son Christ. » Un jour, le royaume, tous les royaumes, tous les rois vont être soumis au roi des rois. Mais lui, dans le jardin, dans le désert, il dit à Jésus, « Hey, je suis capable de te donner tout ça parce que ça m'a été donné à moi puis je peux le donner à qui je veux. Mais si tu m'adores. » Jésus aurait pu dire, puis être dans la vérité quand même, correct, mais je t'adorerai pas. Je vais les prendre tout de suite, les royaumes. Il aurait pu, mais on serait encore dans nos péchés, nous autres. Il fallait qu'il aille à la croix, et il le savait. Mais est-ce que vous pensez que Satan il a offert ça juste à Jésus, tous les royaumes de ce monde? Si vous regardez à travers l'histoire, vous allez voir tout plein de gens à qui Satan a donné tout plein de choses, puis qui ont vendu leur âme, littéralement, pour la célébrité, pour la richesse, pour toutes sortes de raisons. La recherche du bonheur, est-ce que c'est normal de vouloir être heureux? Ben oui, hein? Il y a tout plein de versets dans la Bible. Il y en a un que je chéris par-dessus tous les autres parce qu'il est fondamental. Puis vous le connaissez, si je vous dis psaume 37, 4, vous allez penser à quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Si vous enlevez la première partie du verset, ça marche-t-il encore? Si je fais de l'Éternel mes délices, c'est normal. Ce que je vais lui demander, ça va être selon son désir à lui. Et mon désir à moi va être selon son désir à lui. Il va me l'accorder. Mais pourquoi ça ne marche pas souvent dans notre vie? Parce que nous autres, on veut faire notre affaire à nous autres. Mais Dieu, dans sa grâce, je dirais, il est extraordinaire parce qu'il ne nous demande pas ce qu'on lui demande. Quelqu'un a dit, la pire chose que Dieu peut faire dans ma vie, c'est de répondre toujours à mes prières. Parce que je ne suis pas toujours sage quand je lui demande quelque chose. Il y a pas de magie, vous savez, je vous apprends rien ce matin par rapport au bonheur. Il y a pas de magie. Il y a pas de raccourci. Le bonheur, c'est pas de posséder le maximum, c'est d'apprendre à vivre avec le minimum. Je sais vivre dans l'humilité, je sais vivre dans l'humiliation, dans la disette, nous dit l'apôtre Paul. Il dit, je sais vivre dans l'abondance aussi. Et je dirais que c'est plus difficile d'apprendre à vivre dans l'abondance. Parce que c'est dérangeant quand tu écoutes la télévision avec une bouteille de liqueur d'une main, puis le sac de chips de l'autre, puis de voir des enfants qui meurent de faim dans les pays du tiers-monde. C'est énervant, ça. Apprendre à vivre avec plus, ça devrait être aussi apprendre à partager. Le bonheur, c'est pas de jamais vivre des situations difficiles dans ma vie. C'est d'apprendre à composer avec ces situations-là. Jésus m'a jamais dit que ma vie serait facile. C'est moi qui l'ai voulu facile des fois. C'est moi qui ai voulu prendre des raccourcis. C'est moi qui ai voulu bâtir un bonheur à ma ressemblance. Puis je me suis pété la face, souvent. Le bonheur, c'est pas de rêver à m'en rendre malade des choses que j'aurai jamais. C'est d'apprendre à jouir, à goûter chaque instant de ce que j'ai. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Je pense que oui, par la grâce de Dieu. C'est pas naturel. Je suis content que cette année, vous viviez quelque chose de très particulier. Et je prie Dieu qu'il répande sa grâce et sa bénédiction sur la Mauricie. Vous savez, vous avez quelque chose que beaucoup d'autres régions du Québec n'ont pas. Vous êtes capable de renverser les barrières des dénominations. Merci, Seigneur. Le ciel, ça va être toute la gang de toutes les étiquettes possibles et impossibles. Si on n'est pas capable d'apprendre à vivre ça ici, essayez de vous imaginer un ciel où les baptistes sont d'un bord, les frères de l'autre, les pentecôtistes le plus loin possible. Oh Seigneur! Je vous aime fort, vous savez. Puis, je prie que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire, parce que j'ai toujours la conviction qu'on ne sera pas là longtemps. Il y en a qui disent, ça fait 37 ans que tu nous dis ça. Ben, on est plus proche de 37 ans de ces événements-là. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous donne, qu'il vous accorde la grâce de partager ce merveilleux cadeau-là que Dieu nous a donné, qui a coûté tellement cher. Il a coûté la vie de son fils. Je peux-tu terminer par un petit mot de prière? Oh, Seigneur, c'est pas un secret, toi, c'est une grande vérité que tu nous as donnée, qui est accessible à tout le monde. Et Seigneur, on te remercie pour ça, cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, qu'on n'a pas besoin de se débattre comme le diable dans l'eau bénite, cette expression consacrée-là. On a juste à aller te voir et à te demander de prendre notre vie, Seigneur, et d'en faire ce que tu veux avec. Merci de l'avoir fait dans la vie de plusieurs d'entre nous. Et Seigneur, répands ta grâce sur la Mauricie pendant cette année en cours. Et que ton nom soit glorifié, que beaucoup de gens viennent à la connaissance du salut. C'est dans le nom de celui qui nous l'a mérité, ce salut-là, qu'on te prie, Seigneur. Amen.